New York City. Hiver 92. La plupart des gens sont seuls. Ou se sentent seuls. Ou ont peur de l'être. Peut-être est-ce pour ça que certains se comportent de manière vraiment merdique. Mais je ne me demande plus jamais pourquoi les gens font ce qu'ils font. Quand on relie entre elles les choses qu'ils choisissent de nous montrer d'eux-mêmes, on trouve facilement l'origine du problème. Mais l'impuissance face à ça est toujours un crève-cœur. Et puis, il y a ceux qu'on ne fait que croiser, qu'on ne côtoie pas assez longuement pour les comprendre. Comme cette fois-là, au début des années 90, alors que je venais d'avoir 18 ans et que je m'étais retrouvée dans la foule d'un trottoir bondé, à New York, avec pour tout bagage, avant que les choses tournent mal, un flight case de guitare qui pesait un âne mort et un petit sac en bandoulière. Ma mère m'avait offert ce voyage pour mon anniversaire et pour me récompenser de ne pas avoir abandonné le piano, malgré mon obsession pour la guitare. Elle m'avait aussi donné de quoi m'offrir une Gibson Vintage que je m'étais empressée d'aller acheter dès la descente de l'avion. Je devais avoir l'air un peu idiote sur le trottoir, sans manteau, en plein mois de janvier, avec des badges du velvet sur le revers de ma veste en jean et ce flight case trop lourd que je n'en finissais pas de changer de main. J'étais frigorifiée, crevée par les 8 heures de vol, sonnée par le flux incessant de passants autour de moi, la cacophonie des embouteillages, la multitude de pubs gigantesques placardées partout. J'étais sur le point de retourner dans le métro quand un type m'avait abordé pour me demander du feu. Si je m'étais contentée de l'ignorer, ce séjour aurait probablement été tout autre. Mais il était d'une beauté saisissante, un genre de tête d'oiseau à la béquette, émacié avec des cheveux en brosse décolorés et un regard bleu pâle à la fois fiévreux et complètement absent. En remarquant le flight case, il avait dit qu'il était aussi guitariste, qu'il connaissait tout le monde, qu'il pouvait me présenter qui je voulais. Et une demi-heure plus tard, j'étais attablée en face de lui dans un café de Chinatown, à me brûler la langue avec du thé bouillant. Il s'appelait Richie, et tandis qu'il dévorait un beignet qu'il trempait dans sa tasse en léchant la graisse luisante sur ses doigts, j'avais bien vu que ses ongles étaient trop longs pour jouer de la guitare. J'avais aussi remarqué que le vieux Chinois, derrière le comptoir, me jetait des regards appuyés par-dessus son journal, comme s'il essayait de me faire comprendre quelque chose. Mais quand on était ressorti de là, à la nuit tombée, je l'avais quand même suivi, au lieu de chercher un hôtel. Chez lui, dans un appartement qui consistait en une seule pièce avec un matelas à même le sol et quelques affaires éparpillées, j'avais hésité en le regardant faire chauffer une cuillère. Et quand il avait commencé à se déshabiller, j'avais aussi halluciné que ce soit finalement une fille. Mais ces deux choses que j'essayais pour la première fois étaient assez cool pour que je ne trouve rien à redire. Le lendemain, quand j'avais émergé, Richie avait disparu, ma guitare aussi, et mon sac avec mon argent, mon passeport et mes quelques vêtements aussi. Ma veste en jean était toujours là, mais Richie en avait fait les poches et embarqué mes cigarettes et mes chewing-gums. Je n'avais plus que mon billet d'avion, resté plié dans la poche arrière de mon jean que j'avais remis dans la nuit quand j'avais eu froid, et j'avais alors compris que l'appart était un squat et que Richie avait dû partir dans un autre sans intention de revenir dans celui-ci. Si j'avais été plus courageuse, j'aurais peut-être erré comme Joe Buck dans Macadam Cowboy, ou qui sait, croisé d'autres junkies ici ou là, et le matelas entre ces quatre murs serait devenu mon point d'ancrage pour un temps, jusqu'à ce qu'on me retrouve toute bleue, avec pour seule identité mes badges du velvet sur ma veste en jean.